Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Le bonheur, aujourd'hui, il vient de Chopin, mais surtout de son interprète, Jean-Nicolas Diatkine. Jean-Nicolas Diatkine qui est dans notre studio. Alors Jean-Nicolas, je sais que vous revenez de Belgique et que vous avez donné un concert et que ça s'est très bien passé et que ce disque que vous nous avez apporté et qui se trouve grâce à la Fnac.com très facilement, eh bien marche formidablement parce qu'il y a le retour des auditeurs, m'avez-vous dit, et donc il y a un gros succès. Bravo.
Merci beaucoup.
Jean-Nicolas, alors on remonte le temps, c'est-à-dire que parce que vous êtes un pianiste. Il n'y a pas de pianiste semblable, je ne vais pas dire différent des autres, mais qui quand même a des caractéristiques, des particularités, une originalité, peut-être due à une famille célèbre de votre père qui était un psychanalyste archi célèbre et qui a créé, ce qu'il a créé, votre père, ça s'appelait comment? L'Institut de psychanalyse.
Donc, et le Centre Alfred Binet.
Le Centre Alfred Binet, il était avec les Bobici, ouais, et il aidait beaucoup les bébés, les enfants qui étaient en difficulté. Si je vous raconte ça, c'est que notre ami Jean-Nicolas a été très marqué par l'humanisme de son père et que ça l'a influencé toute sa vie, aujourd'hui encore et peut-être plus, et que c'est une façon, j'imagine, Jean-Nicolas, d'appréhender la musique différemment.
Tout à fait, puisque non seulement la musique est un monde qu'on pourrait dire complexe et qu'on croit souvent réservé à une élite, mais j'ai décidé plutôt de la diriger vers l'empathie envers autrui. Mais cette empathie-là, si on la cultive pas par ailleurs, elle n'est pas spontanément. Donc me suis entraîné sur le plan humain pour pouvoir la ressentir envers n'importe qui. Et je sens que, en effet, d'une façon presque latente, à l'insu de mon plein gré, comme on dit, ça passe dans les interprétations que je fais, sans que je me donne pour but de le faire en particulier, mais c'est quelque chose qui est devenu naturel.
Jean-Nicolas, si tous les hommes étaient comme vous, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, il n'y aurait pas la guerre en Palestine et en Israël.
J'espère.
Bien sûr, bien sûr. Et ça se ressent. Alors, il y a une chose qui m'a surprise, c'est que je vous connais déjà depuis un certain temps et je sais que vous étiez très proche de Beethoven et vous avez réfléchi à Beethoven presque toute votre vie, mais que Chopin vous déroutait, est-ce le verbe?
Oui, il y avait quelque chose qui me dérangeait, en effet. J'avais lu un livre de Jean-Jacques Geldinger qui s'appelait « Chopin vu par ses élèves ».
Je vous interromps parce que c'est le grand, grand spécialiste de Chopin. Et l'année où on a fêté un anniversaire de Chopin, il a fait un mois d'émission sur Radio Notre-Dame.
Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, et en lisant ce livre, les commentaires de ses élèves m'ont donné une impression désagréable. Alors c'est très personnel, hein, je l'assume. Et je trouvais le bonhomme, l'homme Chopin, peu sympathique. Et... alors peut-être que ça me rappelait des choses de ma vie personnelle, hein, que
sûrement.
Certainement, et que je projetais quelque chose de négatif dessus, donc ça c'est très probable, mais enfin en tout cas, ça m'a énormément gêné, et aussi quand j'entendais certains collègues l'interpréter, je ne sentais pas de naturel, ou je sentais quelque chose d'un petit peu maquillé, si on peut dire comme ça, et ce filtre me gênait. Donc j'ai travaillé Chopin toute ma vie, j'ai travaillé les études, j'ai travaillé énormément, mais en ce qui concerne les préludes particulièrement, que j'avais adoré adolescent, il m'est tombé une sorte de voile qui m'a empêché de retrouver l'élan que j'avais ressenti à 14 ans. Et cet élan-là, je l'ai toujours recherché, mais c'était comme chercher un arc-en-ciel, ou pourchasser un arc-en-ciel, c'est-à-dire il recule toujours. Et je me suis dit, bon, bah, j'arrête de lui courir après, parce qu'il s'éloigne.
Et c'était une façon de courir après Chopin, de renoncer à cela ?
Voilà, donc je me suis dit, j'attends qu'il vienne à moi, peut-être.
Pauvre homme.
Voilà. Et donc, c'est arrivé. Et c'est arrivé...
C'est vous qui êtes arrivé à lui.
Oui, mais quand même, mon professeur me disait quand je cherchais trop fort à interpréter un morceau, et que j'étais dans la volonté, et que je voulais atteindre un but, et il me disait, non, laissez le morceau venir à vous.
Bien sûr.
Et j'avais beaucoup de mal à le faire, mais non, quand on est très volontaire comme moi, bon. Et finalement, il s'est passé une fusion, voilà. Et cette fusion a opéré.
Vous a donné ce disque que nos auditeurs vont avoir la joie de découvrir. C'est le premier pour Chopin ?
Pour Chopin, c'est le premier, oui.
Ah, je suis très fière de présenter le premier disque sur Chopin enregistré par Jean-Nicolas Diatkin.
Merci beaucoup.
Oui, alors on va en parler bien sûr en long en large de ce disque, mais vous avez choisi les préludes, l'intégrale des préludes de l'opus 28, et puis également la troisième sonate, la dernière sonate de Chopin, l'opus 58. Pourquoi ce choix ?
Alors c'est un choix un peu par équilibre, parce qu'il m'a semblé que la construction dramatique des préludes est une chose qui ne va pas de soi. Souvent on peut les égrener, on peut les entasser, on peut en faire une série qui n'a pas forcément de cohérence. Et pour leur donner cette cohérence, il me fallait une sorte d'équilibre contraire, c'est-à-dire une sorte de masse qui était cette troisième sonate, qui est extrêmement construite d'un bout à l'autre, qui se tient, qui d'une demi-heure d'un seul tenant.
Qui est somptueuse, qui est la lumière, qui est où il y a tout dans cette troisième sonate.
Il y a tout, et en particulier, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais on connaît bien la sonate funèbre numéro 2 qui...
tout le temps enregistré.
Voilà, et qui a cette marche funèbre très connue. Le troisième mouvement de cette troisième sonate est aussi une marche funèbre.
Elle est en si mineur comme celle de Liszt.
Exactement. Et c'est d'ailleurs. Donc cette marche funèbre n'a pas du tout le même caractère. Elle est beaucoup plus positive et lyrique. Mais il y a cette basse qui fait penser à un deuil. Et en effet, Chopin a écrit cette sonate peu après la perte de son père.
Écoutez, j'aimerais qu'on commence d'écouter cette sonate par le premier mouvement qui est majestueux. Vous nous parlez du premier mouvement.
Alors, le premier mouvement a été souvent critiqué par ses contemporains parce qu'il avait des audaces harmoniques.
Ils sont tous trompés.
Oui, tout à fait, mais qui sont quand même encore surprenantes.
C'est pas ce qui caractérise ce mouvement, qui flamboyant.
Pourquoi ? Parce que il est extrêmement bien organisé et en même temps, il est d'une audace émotionnelle phénoménale. C'est-à-dire qu'il libère l'émotion comme très peu d'œuvres construites peuvent le faire.
Alors je propose qu'on écoute ce premier mouvement. C'est donc le premier mouvement de la troisième sonate, opus 58 de Chopin. Et c'est bien entendu Jean-Nicolas Diatkin qui l'interprète. Thank you. C'était le premier mouvement de la troisième sonate de Chopin. Et c'était Jean-Nicolas Diatkine qui en était l'interprète. Jean-Nicolas, puisqu'on a la chance de vous avoir dans le studio, dites-nous comment on peut se procurer ce disque en restant chez soi.
Alors, on peut le commander sur Internet en physique, à la FNAC et chez Amazon. Et on peut aussi le télécharger en streaming sur toutes les plateformes, Apple, Qobuz, etc.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit la troisième sonate de Chopin et l'intégrale des préludes, interprétée par Jean-Nicolas Diatkine, ça suffit?
Oui, on peut dire Chopin-Diatkine, ça marche très bien.
Chopin-Diatkine, ah bon. Et l'éditeur est Solo Musica, mais Chopin-Diatkine, ça marche très bien. On revient à votre enfance. J'essaie de l'imaginer, d'autant plus que j'ai eu la joie de connaître votre père, parce que vous avez une maison dans... à Bréa, à l'île de Bréa, et les Walter ont une maison dans l'île à Bois qui est juste en face. Donc, une fois, il a traversé et il est arrivé jusqu'à l'île à Bois. Donc, c'était en fait un homme, c'était une sommité connue vraiment en France et hors de France. Et vous êtes le dernier enfant et vous avez des frères, sœurs beaucoup plus âgé que vous, et le petit dernier, on pense qu'il va faire une carrière importante, mais pas dans la musique. Vos parents, au départ, ne pensaient pas ça?
Non, effectivement, quand j'avais 6 ou 7 ans, mon père m'a acheté un microscope, et il m'a dit, c'est pour que tu deviennes un grand savant.
Alors, vous êtes devenu un grand savant de la musique, mais vos frères et sœurs sont devenus de grands savants aussi dans leur discipline.
Absolument.
Donc vous avez la joie quand même de pouvoir travailler votre piano comme vous voulez. Vous travaillez vraiment en tant que professionnel à partir de quand?
Alors, j'ai commencé à travailler sérieusement à 17 ans. Parce que mes parents ont voulu que j'ai une éducation, disons, classique. Ils se méfiaient à l'époque beaucoup du fait d'être enfant prodige. Bon, j'en étais pas un, mais j'aurais pu, en étant poussé, à 6 ans, je chantais dans le Jovini Parker.
Ça, j'ai toujours été complètement étonné. Et cet enfant, 6 ans, était capable de chanter des airs de Don Juan par cœur. C'est quand même, ça a dû quand même un peu épater vos parents.
Oui, mais pour moi, c'était pas du tout épatant. C'était
non,
normal.
Bah oui, bien sûr, un enfant de 6 ans.
Bon, et donc, ils m'ont amené vers un professeur de piano et ils m'ont demandé de chanter Don Giovanni. Et moi, je faisais pas du tout ça pour la galerie, je faisais pas ça pour moi. Donc, je suis allé me cacher derrière un paravent pour ne pas être impressionné par l'assistance. Donc, j'ai chanté des airs de Don Giovanni. Et mon futur professeur était. Il m'a dit, je crois qu'il y a quelque chose là. Bon, et puis mes parents ont eu peut-être un peu peur de ce que ça pouvait faire en faisant que de la musique 24 heures sur 24 à cet âge-là, etc. Donc, et je crois qu'ils avaient raison parce que ça peut être effectivement dangereux si on ne fait pas ça bien. Et donc ils ont insisté pour que j'ai un parcours normal. Voilà.
C'est pas mal parce que ça aide quand même aussi de faire toutes ces études.
Tout à fait.
Voilà. Et à ce moment-là, vous devenez un pianiste professionnel et je pense que votre père a dû être très fier. Votre père et votre mère ont dû être très fiers de voir que vous deveniez un excellent pianiste.
Je crois. Enfin, je pense
votre père était très musicien. Je me souviens, on avait parlé musique.
Enfin, je pense très souvent à lui, même maintenant, bien sûr. Et je sens qu'il est très content.
Voilà. Bon, et alors, quand vous avez eu conscience que vous alliez donner des récitals, est-ce que vous vous êtes dit, c'est vraiment ma vocation, je vais monter sur l'estrade et voilà.
Alors c'est très bizarre, c'était un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai entendu un récital d'Isaac Stern à la salle Pleyel, un jour, je suis sorti donc de ce récital et en me disant c'est impossible que je ne sois pas pianiste.
Ah oui, oui. C'est vraiment une vocation.
C'est impossible. Donc, j'avais pas d'ambition particulière de devenir ceci ou cela, mais l'idée de ne pas le faire était impossible.
Alors, pas d'ambition particulière, ça vous colle à la peau. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui se démène vraiment pour être partout et qu'on vous entende dans toutes les circonstances. Ce n'est pas comme ça que vous envisagez la carrière, ou alors c'est pas comme ça que vous êtes profondément.
Alors, c'est d'abord parce que j'étais convaincu qu'il fallait d'abord devenir un artiste de grande qualité avant de se vendre. Et Et donc maintenant, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé ma grande conviction dans ce que je fais. Je me sens vraiment bien. Je peux le défendre. Et j'ai donc envie de jouer pour le maximum de personnes, pour partager les musiques avec le plus grand nombre de personnes possible. Donc le mot gloire est un peu étranger, en effet, à ma personnalité. Mais par contre, l'idée de partager la musique avec le monde entier, dans le sens le plus grand nombre possible, millionen, comme disait Schiller, me plaît beaucoup.
Mais quels sont les compositeurs que vous avez essentiellement envie de transmettre aux gens qui vous écoutent? Alors Beethoven, ça je sais.
Voilà. Alors, je dis toujours dans ces cas-là que c'est le compositeur que je travaille maintenant.
C'est-à-dire que ça peut être aussi bien Honegger.
Alors, en ce moment, c'est Chopin, donc c'est Chopin que j'ai envie de transmettre. C'est Beethoven,
On vient dans le 19e siècle ou le 20e siècle.
Voilà, mais ça a été Ravel aussi. Ça a été Ravel, ça a été Shostakovich aussi, j'ai vu du Prokofiev, Rachmaninov.
Ça s'arrête où? Stockhausen?
Non, pas Stockhausen, non. Bon, je reste donc quand même dans ce qui est à peu près mélodique. Bon, mais en même temps, je suis ouvert parce qu'il ne faut pas, faut toujours rester ouvert à des formes de musique un peu différentes, surtout si elles sont très bien structurées. Et aussi, j'ai découvert les sonates de Soler, de Handel.
Enfin, c'est très classique quand même.
C'est même presque baroque. Donc là,
Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas les contemporains.
Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais je suis pas du tout fermé à ça.
Oui. Pas fermé du tout. Écoutez, une chose que vous m'avez dite qui m'a surprise, vous avez parlé des préludes et vous m'avez parlé beaucoup de l'unité que vous avez été arrivé à trouver à ces préludes. Et moi, ce que j'admire peut-être le plus dans ces préludes, qui sont des petits bijoux vraiment, où en quelques secondes, en quelques minutes, il y a une intensité d'expression et une variété incroyable, et on peut les jouer à la suite, on peut en jouer que deux, que trois, que quatre, dans n'importe quel ordre, ce n'est pas gênant. Donc, c'est pas forcé de se dire il faut chercher une unité.
Donc, c'est pas forcé, seulement Chopin lui-même a quand même organisé les préludes en fonction d'une progression tonale, comme l'a fait Bach.
Oui,
donc, il a fait une progression tonale. Et donc je pense que de ce point de vue-là, il a calculé les choses pour qu'elles soient enchaînées. Alors, en effet, elles sont toutes très belles et jouables de façon individuelle. Mais quand on fait ce parcours tonal, elles prennent une force et qui s'accroît au fur et à mesure. C'est-à-dire quand on arrive au dernier, il y a vraiment une sorte de nécessité de conclure.
Quand Chopin part à Majorque avec George Sand, les seules partitions qu'il emmène, ce sont les préludes et fugues du Clavecin tempéré de Jean-Sébastien Bach. Mais il n'a pas fait toutes les tonalités comme lui du tout.
Voilà, pas de la même façon, mais il les a toutes faites, puisqu'il y en a 24.
Oui, voilà. Et ce qu'il a en commun, c'est le nombre, le chiffre.
Voilà. Mais la progression harmonique est différente, puisque Bach a fait une progression chromatique, Do, Do dièse, Ré mineur, et donc Chopin...
Et toutes les quintes.
A fait alors d'abord la tonalité principale, ensuite son relatif mineur, et ensuite la quinte en dessous, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, et ça donne, si vous voulez, la progression harmonique donne l'impression qu'on attend quelque chose.
C'est tout à fait intéressant. En tout cas, c'est une réussite. On écoute, on ne peut pas tous les écouter, bien entendu, mais on va pouvoir en entendre quelques-uns. Ils sont extraits, bien sûr, de l'intégrale des préludes opus 28 de Chopin que Jean-Nicolas Diatkine vous permet d'entendre.
Thank you.
C'était des préludes extraits de l'opus 28 de Chopin. Et c'était Jean-Nicolas Diatkine qui les interprétait. Alors c'est tout à fait émouvant, je ne sais pas ce que vous en pensez, de se dire que ce jeune Chopin qui s'échappe avec George Sand dans cette île pour vivre leur amour, il va être malade comme une bête, il va avoir trois médecins, le dernier va dire que de toute façon il n'y a rien à dire parce qu'il va mourir.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible, surtout qu'on l'envoie au départ de Paris à Majov pour le soigner, alors que c'était un endroit très humide et c'est en plein hiver.
Donc c'est tuberculeux, voilà. C'est le dernier médicament.
C'était pas très recommandé. Et donc il va vivre vraiment certainement des moments très très compliqués. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait se dire qu'il va s'appesantir sur tout ce qui est noir et sombre, mais c'est pas le cas. Et donc, vous voyez, le premier prélude, on sent vraiment la joie d'arriver dans un nouveau pays, avec le ciel bleu, avec, je ne sais pas, enfin, cet élan très jeune. Et il y a plusieurs préludes comme ça, qui sont d'une jouvence très étonnante.
Alors, il est terminé en 39, et la sonate que vous avez enregistrée, la troisième, la dernière, c'est en 45 et il va mourir 4 ans après.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous trouvez vraiment que on sent que c'est pas le même homme ou...
Oui, tout... alors c'est quand même le même homme, mais il a une patte beaucoup plus complexe du point de vue polyphonique. Et là, on entend, surtout dans le premier mouvement, des richesses polyphoniques immense. Et quand je l'ai retravaillé, je l'ai travaillé à plusieurs époques de ma vie, cette fois-ci, j'ai vraiment eu à cœur de faire ressortir toutes les voix et d'aller les chercher là où elles étaient. Et c'est tout à fait extraordinaire. C'est comme Bach. C'est aussi rigoureux que Bach.
Jean-Nicolas, qu'est-ce que vous allez travailler maintenant que vous êtes passionné pour Chopin? Votre prochain disque, que vous pensez comme ça dans un avenir plus ou moins proche, vous avez envie de le consacrer à qui?
Ça sera Schubert.
Schubert.
Oui,
et alors, Schubert. Parlez-nous de votre relation avec Schubert.
Alors, Schubert, je le connais depuis que je suis très très jeune, puisque ma mère écoutait les moments musicaux alors que j'avais 4 ou 5 ans. Donc ça s'est vraiment imprimé. Ensuite, lorsque je dormais, ils écoutaient des quatuors, mes parents. Et ensuite, quand j'ai accompagné des chanteurs, j'ai accompagné les plus grands cycles de Schubert. Donc, le voyage d'hiver, la belle meunière et le chant du cygne, et d'innombrables autres mélodies. Et je trouve que c'est un compositeur tellement extraordinaire, qui a une profondeur humaine, en même temps une simplicité confondante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire exprès avec lui. C'est quelque chose qui... la musique sort d'elle-même sans qu'il ait besoin de faire un effort. Et c'est pour ça qu'il est tellement touchant, c'est qu'il y a en même temps une très grande profondeur humaine et en même temps ce naturel qui est presque vierge de toute mauvaise pensée.
Jean-Nicolas, avant qu'on vous écoute encore dans du Chopin, j'aimerais que vous nous disiez si vous avez été intéressé par cet univers fantastique de la psychanalyse, et votre père était un maître. Est-ce que vous avez vous-même travaillé, réfléchi? Mais,
alors, j'ai été moi-même mis en psychanalyse par mes parents.
J'imagine.
Parce que dès que les choses n'allaient pas dans la bonne direction, je me dis peut-être ça serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Et en l'occurrence, ça a été mon propre parrain, qui était Serge Debovici, qui n'était pas tout à fait des moindres.
T'es aussi un très grand analyste.
Donc j'étais biberonné depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans quasiment.
Ah là là.
Voilà. Donc ça a beaucoup évidemment influencé ma pensée, la conscience de moi et aussi le fait que je comprenais, comme disait Freud, qu'on n'est pas maître dans sa propre maison. Donc ça a été un peu ma base de formation. Mais très curieusement, quand j'ai commencé à travailler mon piano, ça ne fonctionnait plus. Et donc la réflexion que je pouvais me donner en relatant un échec ou une difficulté, une angoisse, avec la musique, ce n'était plus discible. Vous pouvez pas raconter votre travail pianistique parce que
c'est drôle. Parce que pendant que vous me disiez cela, je pensais au contraire qu'une connaissance de votre être, de vous-même, parce qu'en fin de compte, l'intermédiaire entre le compositeur et le mélomane, celui qui va écouter la musique, c'est son être. Et le fait que vous vous connaissiez plutôt mieux qu'un autre, je pensais vous donner un accès plus immédiat à la musique.
Peut-être, en effet, une empathie envers les autres. Je comprends mieux certaines réactions.
Sûrement.
Mais pas suffisamment pour pouvoir aller au plus profond de l'émotion elle-même. Et c'est là que j'étais un peu désespéré parce que je pensais qu'en effet, la psychanalyse avait raison de tout. Et là, c'était pas le cas. Alors, un de mes amis psychanalystes, un ami de mes parents, m'a dit, il faut que tu ailles plus loin.
Alors ?
Et alors, je ne savais pas du tout où aller. Et c'est Claudio Arrau qui a publié un livre, qui a été traduit par Arrau Parle, dans lequel il souhaite que ses élèves fassent de la danse, de la psychanalyse, donc ça, la psychanalyse j'ai fait, et du bouddhisme.
Et ah oui, vous êtes vraiment voilà. Une adhésion très importante avec le bouddhisme.
Voilà. Et alors après, je me suis dit quel bouddhisme. Alors il parle du zen dans l'art du tir à l'arc que j'ai lu et qui m'avait un peu déçu. Je me suis dit je vais pas devenir tireur à l'arc. Et il se trouve qu'un élève d'Arao que j'ai rencontré dans ma vie était d'un homme d'une très grande chaleur humaine. Et donc je me suis confié à lui en disant voilà, j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que t'as pas un exercice pour me permettre de me concentrer? Alors il me dit si, récite cette phrase, Nam Myoho Renge Kyo. Je dis quoi, comment c'est possible ça, réciter une phrase? Si. Alors je l'ai fait comme un exercice de solfège, vraiment, sans aucune a priori. Et j'étais très surpris par le résultat parce que je sentais que je pensais mieux, j'entendais mieux. J'étais plus calme et je me suis dit comment c'est possible. Alors j'ai été voir pourquoi ça marchait et en effet ça s'explique et depuis j'ai jamais arrêté.
Dites-nous un mot sur ces préludes posthumes qui va terminer cette émission.
Alors les préludes posthumes, effectivement il y a aussi un grand écart d'opus entre l'opus 28 qui est et l'opus 45. Ça veut dire qu'aussi, on a affaire à deux Chopins différents. Et là, on entre dans quelque chose qui est un peu différent de ce côté confessionnal. Arrau dit que Chopin, c'est comme une confession d'homme à homme. Là, on pense que... Enfin, je ressens que Chopin avait de la compassion pour la personne à qui il a dédicacé l'opus 45, et qu'il avait une façon de partager sa souffrance. Et là, on sent quelque chose de très empathique, et beaucoup moins auto-centré que dans les autres musiques qu'il a pu produire. Et on sent ça. Et je trouve ça assez, assez remarquable. En même temps, très simple, puisque c'est la main gauche qui fait des volutes. Un critique que je viens de lire disait qu'il y a une sorte de parallèle entre l'opus 76 de Brahms et puis ce prélude, qui a un peu la même forme d'accompagnement à la gauche. Et donc, qui est assez lourd, qui est quand même émotionnellement assez fort, chargé, mais en même temps libérateur. Et à la fin, le dernier prélude est une réminiscence de 1834, presque une plaisanterie, probablement un peu une mi-étude, il y a quelque chose d'un peu difficile à faire, pour un de ses amis, et qui se termine un peu en pirouette. Et je trouve que pour conclure un cycle aussi chargé émotionnellement, ça repose.
C'était le prélude opus 45, prélude posthume, interprété par Jean-Nicolas Diatkine, que j'ai reçu, qui nous a amené ce disque, donc, avec la sonate numéro 3 d'opus 58, l'intégrale des préludes de l'opus 28 et ce prélude opus 45 de prélude posthume. Voilà, on se quitte, mais on se retrouve tous, puisque vous allez écouter en podcast ce disque de Jean-Nicolas Diatkine et puis notre conversation. Excellente journée et bonne semaine. À bientôt. Au revoir.